Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 13. Nous avons laissé le docteur Hébert très préoccupé, très soucieux. C'est que le célèbre praticien était, lorsque les deux orphelines s'étaient présentées chez lui, à la veille de tenir la promesse qu'il s'était faite de procéder à l'opération jugée indispensable pour rendre au rémouleur, Pierre Frochard, l'usage régulier de ses deux jambes. Or, au moment de se mettre à cette besogne, dont l'exécution n'était pas exempte de quelques dangers, le docteur Hébert éprouvait une vive émotion. C'était du reste ce qui lui arrivait chaque fois qu'il se trouvait en présence d'un cas grave, nécessitant une grande précision de main, en même temps que le sang-froid absolu. Cette fois particulièrement, le rôle du chirurgien se doublait du rôle de bienfaiteur, et celui qui allait devenir un patient, à qui l'on demanderait d'avoir le courage de supporter une violente souffrance, n'avait pas sollicité le secours de la science. On l'avait, pour ainsi dire, amené à se persuader qu'il serait très heureux de ne plus boiter, dût-il pour cela supporter une très douloureuse opération. M. Hébert n'était pas sans éprouver quelques incertitudes. Il se savait bon praticien. Il connaissait parfaitement le cas dont il allait s'occuper. Il était doué d'une habileté que tous ses collègues se plaisaient à reconnaître. 20 fois, il était sorti avec succès d'opérations que l'on avait jugées impraticables. Et cependant, il était inquiet, impatient, fiévreux, enfin dans les plus mauvaises conditions pour accomplir convenablement sa besogne de chirurgien. Après tout, se disait-il à bout de bons raisonnements, est-il tout à fait indispensable que ce pauvre diable, habitué depuis de longues années à sa claudication, soit débarrassé de cette infirmité? Ne me suffira-t-il pas de l'avoir tiré de la misère et de la honte où il croupissait? Je lui ferai donner quelque éducation, et il pourra, grâce à cette transformation partielle, devenir autre chose qu'un misérable rémouleur. Je lui trouverai quelque bon emploi, et il ne sera plus obligé, pour gagner péniblement sa vie, de courir du matin au soir par les rues, en portant sa boutique de rémouleur sur le dos. Il s'affermissait dans cette idée avec d'autant plus de force qu'il se rappelait la mine piteuse de Pierre en apprenant ce qu'on lui ménageait. Il sera heureux d'être débarrassé du chirurgien, poursuivait mentalement M. Hébert, et il saura gré, au contraire, au protecteur, qui lui tombe des nues, de le faire instruire afin de le mettre à même de gagner honorablement et moins péniblement son existence. C'est qu'il a d'excellents sentiments, ce pauvre R. Et la nature a eu là une singulière fantaisie, de faire naître un agneau docile d'une hyène féroce. Et puis, il a une figure fort intelligente, agréable même, et qui ne manquerait pas d'attirer les regards quand le perruquier lui aura consacré quelques heures. Il sera vraiment très bien et fort présentable, mon protégé. Et sans cette maudite jambe qui est plus courte que l'autre, on en arriverait à faire de lui un charmant cavalier. Et récapitulant. La structure du corps ne manque pas d'une élégance naturelle que modifiera une gymnastique raisonnée. Les pieds et les mains sont petits. Les attaches, à ce que j'ai pu voir, assez fines, ma foi. Quand on aura donné des soins à ce pauvre diable, et aussi des chaussures légères à la place des souliers à gros clous, odieusement déformés, et dans lesquels ses pieds doivent être au supplice. Je gage qu'en moins de 3 mois, un professeur de danse et de maintien arrivera à apprendre à ce gaillard-là l'art de tendre la jambe, de cambrer le buste, de saluer convenablement tout comme un vrai gentilhomme. Allons, allons, concluait l'excellent docteur Hébert. Il faut absolument opérer tout entière cette métamorphose. Il faut redresser cette maudite jambe. Il le faut et je n'en démordrai pas. Alors, l'homme de science allait au squelette d'étude, dissimulé derrière un long rideau de serge, et se mettait à étudier le fémur et le tibia longuement et minutieusement. Quelqu'un qui se fût trouvé caché dans ce cabinet de consultation eût entendu le praticien se parlant tout haut, comme s'il eût fait un cours à des étudiants. C'est là, là qu'est l'ankylose. Il faut briser là. De cette façon, j'obtiens une fracture nette, bien franche, absolument au même endroit où la jambe a été cassée une première fois. Mais dans quel état vais-je trouver le muscle ? C'est là le côté grave. Il s'est retiré, c'est certain. Mais s'est-il noué? Et le savant praticien passait la main sur son front où perlaient des gouttes de sueur. Puis il reprenait son étude, tout en palpant les os du squelette, lesquels claquaient sous ses doigts. Il passa plusieurs heures combattu par des idées diverses, tantôt s'arrêtant à la résolution de ne pas donner suite à son projet, tantôt se persuadant au contraire qu'il se laissait aller à des craintes chimériques et qu'il réussirait l'opération. C'est à cette dernière supposition qu'il s'arrêta définitivement. Dès le lendemain matin et bien avant l'heure de ses visites à sa riche et aristocratique clientèle, le docteur Hébert donna à son valet de chambre l'ordre de se faire atteler. Puis il prit l'écrin dans lequel se trouvaient les instruments nécessaires, les examina et donna l'écrin au jeune domestique, tout étonné de cette sortie matinale. Il s'accordait son franc-parler, ce valet de chambre, avec son maître plein de bonté pour un serviteur qu'il avait connu alors que celui-ci était encore tout enfant. Aussi demanda-t-il en écarquillant les yeux. « Où va monsieur de si bonne heure ce matin ?» Et voyant l'écrin que le docteur lui passait, « Oh ! » reprit le jeune domestique, « nous allons faire encore de la charcuterie. » À cette boutade à laquelle il était habitué, le docteur répondit par un sourire indiquant qu'un changement complet s'était fait dans son esprit. Il était à présent parfaitement calme et maître de lui, comme le général qui, après avoir pesé longuement le pour et le contre d'une opération hardie, se tient prêt, résolu et ferme pour l'action qui va s'engager. Jamais le gardien de la porte de l'hôpital Saint-Louis ne l'avait vu de meilleure humeur lorsque le docteur, s'informant du nouveau pensionnaire qui lui avait amené, s'écria « Alors, notre gaillard a passé une bonne nuit ?»« Excellente, monsieur le docteur, si j'en juge par le teint reposé, les yeux calmes, la voix assurée qu'il avait ce matin, quand je me suis présenté dans sa chambre. »« Je suis enchanté. Donc, il a bien dormi ?»« À mon avis, il a dû dormir à point fermé, au moins 10 bonnes heures. Et cela comme un gaillard qui ne redoute rien. » Et sans en entendre davantage, le docteur se dirigea vers son cabinet. Deux infirmiers se présentèrent alors pour recevoir ses ordres. Il commanda à l'un d'eux d'aller chercher l'aide de service. C'était un des élèves favoris du maître. Aussitôt qu'il se fut présenté, « Approchez, lui dit monsieur Hébert, je vais vous donner mes instructions. » Et le célèbre praticien, en quelques minutes, lui donna des ordres clairs et précis. Il s'agissait de tout préparer dans une des salles dites d'opération dans lesquelles monsieur Hébert avait l'habitude de réunir les jeunes médecins et les élèves en chirurgie quand il se présentait un cas sérieux dont ceux-ci pouvaient profiter comme étude. Au bout d'un quart d'heure, l'aide revint annoncer que tout était prêt pour l'opération. « C'est bien, répondit monsieur Hébert. Allez m'attendre avec deux infirmiers, car j'aurai besoin de bras solides tout à l'heure. » Et changeant de ton, il continua d'un air grave. « Allez chercher le jeune homme et conduisez-le ici. » L'aide de service obéit. Au bout de quelques instants, il revenait, précédant Pierre, qui, aussitôt qu'il eut aperçu le docteur, comprit ce qu'on lui voulait. Il réprima un tressaillement d'effroi, et s'inclinant pour dissimuler la rougeur qui avait subitement illuminé ses joues. « Monsieur le médecin, dit-il, m'a fait appeler ?» Sur un signe du docteur, l'aide alla rejoindre les autres infirmiers dans la salle des opérations. Monsieur Hébert, ayant également congédié son domestique, s'approcha de Pierre en disant « Oui, mon ami, je t'ai fait appeler parce que le moment est venu de pratiquer l'opération dont nous avons causé ces jours derniers. » Et comme le jeune homme gardait le silence, monsieur Hébert ajouta « Je suis content de ce que je vois. Tu as suivi mes conseils, tu as surmonté les impressions fâcheuses et te voilà calme et résolu. » « Oui, monsieur le médecin, je suis prêt, » répondit Pierre d'une voix ferme. « Et vous pouvez commencer dès qu'il vous plaira. Je vous le répète, je suis prêt. Alors, mon ami, suis-moi, » dit le docteur. Arrivé sur le seuil d'une vaste pièce carrelée à laquelle de hautes croisées donnaient le jour nécessaire, les deux hommes s'arrêtèrent. Au milieu, une longue table en chêne massif, aux deux extrémités, les infirmiers d'une part et les aides de l'autre. Puis, sur un escabeau élevé, la boîte contenant les instruments de chirurgie qu'avait apporté le docteur. Tous les assistants conservaient un air grave. Monsieur Hébert fit avancer Pierre et le conduisit auprès de la table. Puis, se tournant vers le jeune homme, « Tu vas monter sur cette table, lui dit-il d'une voix affectueuse, et t'y étendre. » Sans faire la moindre observation, Pierre se hissa le mieux qu'il put et s'installa dans la position que lui avait indiquée le médecin. À partir de ce moment, il ne bougea pas plus que s'il eût été frappé de paralysie. Seul son regard se leva vers le ciel, comme si mentalement le pauvre garçon eût adressé une fervente prière à la Providence. Sur un signe du docteur, deux infirmiers vinrent se placer de chaque côté de la table et saisirent chacun un des bras du patient, tandis qu'un troisième se chargeait de maintenir le haut du corps et que l'aide empoignait la jambe saine pour maîtriser les efforts que pourrait faire le patient au moment où commencerait l'opération. Pierre se laissa maintenir ainsi, non sans dire cependant au docteur. « Il n'était pas besoin de tout ce monde, monsieur le médecin, puisque je vous avais promis que je ne bougerais pas. »« C'est indispensable, mon ami, » répondit monsieur Hébert. « Les plus courageux et les moins sensibles à la souffrance ne sont pas toujours maîtres de mouvements involontaires. Et c'est ce que je veux éviter. » À partir de cette réplique, Pierre ne parla plus, attendant avec un calme apparent et dans une immobilité complète ce qui allait se passer. Monsieur Hébert ouvrit l'écrin en ayant soin d'éviter que le patient vît ce qu'il faisait. Il plaça un des instruments sur l'escabeau à portée de sa main. Puis, s'approchant du jeune homme, il se mit en devoir de le débarrasser de ces choses. Une fois la jambe mise à nu, le savant praticien palpa les chairs, les muscles, promena ses doigts sur les différents os, ainsi qu'il avait fait pour le squelette suspendu dans son cabinet de travail. Il chercha pendant quelques instants pour s'assurer de l'endroit où il fallait casser la jambe. Et imposant le doigt sur un point en proéminence de l'os, il regarda l'aide en disant « C'est là, voici l'endroit précis qu'il faut attaquer. » Il y eut alors dans l'assistance un moment de silence. Tout à coup, M. Hébert souleva la jambe et la maintint dans la position qu'il avait voulu obtenir. Et saisissant l'instrument qu'il avait précédemment placé à portée de sa main, il en porta un coup sec, vigoureux, sur la jambe du rémouleur. Tout cela n'avait duré qu'une seconde. Pierre étouffa le cri de douleur qui s'arrêta dans sa gorge. Le sang lui afflua aux joues et ses yeux prirent une expression qui disait l'effort que le malheureux faisait et la force de volonté qu'il appelait à son aide pour ne pas exhaler des gémissements. Un murmure d'approbation sortit des lèvres de tous ceux qui venaient d'être témoins de cette scène. Le regard de M. Hébert interrompit cette manifestation. Sans perdre une seconde, l'habile praticien continua l'opération. Il s'agissait maintenant de pratiquer le plus rapidement possible la réduction. M. Hébert ne se laissa plus détourner de cette délicate besogne. Et c'est avec une précision extrême qu'il procéda, cherchant autant que possible à ce que le patient ne se ressentît pas trop de la longueur de l'épreuve. L'aide lui passait l'étoile et l'appareil nécessité par l'opération. Et son regard disait aux infirmiers que tout marchait à souhait. Pierre venait de subir pendant quelques instants un véritable supplice. Ses traits étaient convulsés et son visage d'une pâleur extrême. « Tout va bien !» s'écria M. Hébert en souriant à Pierre qui le regardait avec anxiété. « Il ne vous reste plus maintenant, mon ami, qu'à observer strictement mes recommandations. Et pour cela, je vous confie la vigilante surveillance de nos infirmiers. » Puis s'apercevant que Pierre allait parler et faire un geste, il l'en empêcha en disant « D'abord, il importe que vous demeuriez immobile et autant que possible silencieux. L'immobilité est indispensable pour qu'il ne survienne pas d'accident fâcheux. Et si je vous recommande en outre de parler le moins possible, c'est que la fièvre va probablement se déclarer. Et l'agitation entretenue par des conversations trop longues et trop fréquentes pourrait alimenter cette fièvre. » Et s'adressant à l'aide et aux infirmiers, « Je compte absolument sur vous, » leur dit-il, puis se tournant de nouveau vers Pierre. « Vous allez être transporté dans une chambre que vous occuperez seul. C'est une faveur que l'on n'accorde que très rarement aux malades, et je sais que vous saurez la justifier en suivant docilement mes recommandations. » Et il ajouta, « Je veux veiller moi-même à ce que dans le trajet de cette salle à la chambre qui vous est destinée, vous ne soyez pas trop chaotés. » Sur un signe, l'aide et les infirmiers sortirent pour reparaître quelques instants plus tard, portant un brancard sur lequel Pierre fut placé doucement avec toutes les précautions que nécessitait son état. M. Hébert accompagna son sujet et présida à ce que la mise au lit fût exécutée comme il convenait. « Vous voilà cloué là, mon ami, pour pas mal de temps, » dit-il à Pierre, « et ce n'est pas ce qui vous sera le plus agréable. Mais j'ai trouvé le moyen de vous procurer une distraction, laquelle, j'en suis convaincu d'avance, sera tout à fait de votre goût. » Et comme le jeune homme, n'osant parler, interrogeait du regard, « Vous saurez bientôt ce dont il s'agit. Pour l'instant, je désire que vous preniez du repos. C'est ainsi que le docteur Hébert, après avoir habilement pratiqué une opération difficile, quitta son malade qu'il confiait à la surveillance de l'un des infirmiers.